Eh bien, mes chers amis, c'est déjà notre dernière soirée dans ce premier camp familial, Mahanaïm. Et habituellement, cette soirée est consacrée entièrement au témoignage. Cantique, bien sûr, et témoignage, prière, chacun apporte ce qu'il a sur le cœur. Mais comme plusieurs se sont un peu sentis frustrés parce que hier on ne pouvait pas suivre notre plan, alors nous avons pensé qu'avant la réunion de témoignage, nous considérerions rapidement le chapitre 14 des Actes que nous allons lire et qui nous amènera à la moitié du livre. Ainsi, nous aurons pu étudier bien rapidement, il est vrai, et très superficiellement, 519 versets. Notre chapitre 14 en a 28. Dieu notre Père, nous voulons te demander que tu nous conduises ce soir dans ce que nous avons à examiner, à retenir de ces textes et qu'ils nous orientent vers ce moment de témoignage avec lequel nous voudrions terminer nos soirées de ce camp Mahanaïm, qui est ton camp. Que ta grâce encore accompagne ceux qui nous ont quittés, que tu les préserves avec leurs enfants de tout danger, et que tu nous donnes ici ton secours et ta paix. En Jésus. Amen. Eh bien, ce matin, nous avons vu comment, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabas déclarèrent aux Juifs qu'ils iraient chez les païens, puisque on les rejetait. C'était au chapitre 13. Et nous avons vu au verset 48e que les païens se réjouissaient en entendant cela. Évidemment, pour l'apôtre Paul et Barnabas, c'était une épreuve, on les chassait, on les rejetait, mais cette parole qu'ils avaient donnée devant les Juifs, eh bien, puisqu'il en est ainsi, nous irons chez les païens. Il y avait des païens qui étaient remplis de joie en pensant à ces possibilités que ceux de leur génération avaient d'entendre aussi l'Évangile. Et ils glorifiaient quoi? Paul? La parole. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et nous avons vu, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent alors les femmes dévotes et de distinction, et les principaux de la ville, donc alors des magistrats païens, se sont coalisés avec ces Juifs agitateurs, et ils ont provoqué une persécution contre Paul et Barnabas, qui les ont chassés de leur territoire. C'est donc une expulsion. Vous voyez, on a eu des expulsions, l'expulsion des Turcs. Eh bien, il y avait déjà des expulsions de ce temps-là. Paul et Barnabas, se souvenant des paroles du Seigneur, secouent la poussière de leurs pieds et ils s'en vont à Icône ou Iconium. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ça m'a bien frappé de voir encore une fois ce mot « rempli ». Et je vous demande, avant de passer plus loin, de quoi est-on rempli? D'après ce que nous avons lu dans les Actes jusqu'à maintenant, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, comme Étienne, rempli de foi, rempli de grâce, que nous avons vu aussi, rempli de puissance, tout cela dans le chapitre 6, et puis ici, rempli de joie. Et un septième point, on peut dire rempli d'amour, quand on voit ce qu'Étienne a dit alors qu'on le lapidait. Donc il y a une plénitude, ils sont vraiment remplis, et vous avez tout ça, le Saint-Esprit, la sagesse, la foi, la grâce, la puissance, l'amour, la joie. Alors on arrive à notre chapitre 14e, par lequel nous allons terminer le premier voyage de l'apôtre Paul. Et vous voyez, ou vous ne voyez guère, je ne sais pas bien ce qu'il faut faire. On va dire que... Oui, ça brûle.
C'est chaud, ouais.
C'est chaud. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Ça irait comme ça. Enfin, c'est seulement pour vous montrer un peu l'itinéraire de ce premier voyage de Paul. Je vous montrerai, enfin, ceux qui seront là pour le deuxième camp, on montrera les autres itinéraires. Combien de Paul a-t-il fait de voyages missionnaires? Il en avait quatre. Alors, voilà le fameux Antioche, qui est donc, ici c'est la mer Méditerranée, et Antioche, qui est au fond le centre missionnaire pour les païens, puisque Jérusalem était le centre juif, mais maintenant on a vu que tout partait d'Antioche avec Paul et Barnabas. Alors c'est là, ils sont partis, et ils sont allés, on l'a vu ce matin, dans l'île de Chypre. Et là, ils se sont arrêtés à Salamine, c'est ce qu'on a vu ce matin. Puis ils sont allés à Paphos. Et à Paphos, qu'est-ce qu'il y avait? Une conversion d'un homme distingué, Serge Paul. Et c'est là qu'était le bar Jésus, le magicien, et qui est devenu aveugle pour un temps. Puis ils ont poursuivi, ils sont arrivés en Attalie, et ils sont arrivés à Perge, si vous reprenez tout cela, puis ils sont montés à Antioche de Pisidie. Alors vous voyez, Antioche de Syrie, là, d'où ils étaient partis, c'est là qu'ils ont été consacrés pour ce voyage, avec l'appui donc de l'Église. Et ils ont fait ce voyage, ils étaient avec Jean, surnommé Marc, et qui les a abandonnés en chemin. Alors, de Perge, ils sont allés donc à Antioche de Pisidie. Et c'est dans cette ville d'Antioche que Paul a fait ce fameux discours qui nous a occupés ce matin. Et ils ont été deux sabbats, le premier sabbat, et puis le deuxième sabbat, il y avait toute la ville, et puis on les a rejetés. On en est là. Alors, ils sont partis d'Antioche pour aller où? À Icône, ou à Iconium. Vous voyez assez bien comme ça? Je gêne personne? Je ne suis pas transparent, moi. Alors, je ne voudrais pas... Ça va? Tu l'as vu, oui. Bon. Alors, c'est bien. Alors, nous lisons. À Icône, donc, vous voyez à peu près, donc, ça nous aide un peu à nous retrouver. Et c'est Antioche et ils arrivent à Icône. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière, donc vous voyez, il y a certaines manières de parler. Et là, on pourrait s'arrêter pour se demander, mais de quelle manière devons-nous parler? C'est un exercice constant. Ce n'est pas parler pour parler, mais il y a une manière de parler. Et je pense à ce que Paul disait, nous parlons devant Dieu en Christ. Il était toujours conscient que celui qu'il écoutait en premier, c'était Dieu. Et que ce qu'il disait de son fils, c'était quelque chose. Le premier auditeur, c'est le Père, qui entend ce que l'on dit de son fils. Alors c'est quelque chose de grave. C'est pas jaser. Moi, c'est une expression qui m'avait un peu heurté en 1960. Je me souviens, j'étais à la TUC et à la fin de ma réunion, un de ses frères m'a dit, eh bien, on va maintenant jaser du Seigneur. J'avais pas l'habitude d'entendre ce mot jaser, parce qu'on ne l'aurait pas employé dans les vieux pays pour dire qu'on jase du Seigneur, n'est-ce pas ? On parle du Seigneur, mais jaser là-bas, ben, c'est parler légèrement. Mais c'était pourtant très sérieux, puis c'était un frère qui avait une grande connaissance de la parole. On est resté jusqu'à 2h du matin à parler ou à jaser du Seigneur. Mais il vaut peut-être mieux jaser du Seigneur que de jaser d'autre chose. Et surtout pas de jaser de son prochain. Mais vous voyez, il faut que nous nous adaptions aussi à un certain langage quand on vient d'ailleurs. Alors, ils sortirent... où est-ce que j'étais? Oui. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Donc, vous voyez qu'on ne doit pas se décourager parce qu'on a eu un certain échec dans la ville précédente et qu'on a dû fuir, qu'on a dû partir. Bien, ils arrivent à Iconium, mais ils ne sont pas découragés, ils recommencent. On ne peut pas nous interdire de parler de Jésus. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors on va dans une autre ville. Je me souviens quand j'ai été arrêté par la police en 1938 au Valais, je distribuais des traités et puis les prêtres m'ont dénoncé. Alors on m'a arrêté et j'avais peur qu'on me saisisse toute ma valise pleine de traités. Alors, j'ai quitté la ville, puis je suis allé dans une autre ville, puis j'ai tout apporté dans l'autre ville. Et puis, comme ça, quand je devais revenir à la police, j'avais plus mes traités, personne n'a pu me les saisir, je les avais distribués. Alors, c'était bien. Mais qu'est-ce qui m'a inspiré? Si on te ferme la porte dans cette ville, tu vas dans l'autre. Alors, il nous donne une certaine sagesse, puis nous rend prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est toujours ça, c'est la parole qui nous instruit, qui nous façonne et qui nous oriente et qui nous dirige. Et alors quand j'ai demandé au policier, mais qui m'a dénoncé? Ils m'ont dit, c'est monsieur le curé. Alors évidemment, la police était sous les ordres du curé. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller trouver le curé. Il était 9h du soir. J'ai été trouver le curé de la ville. Son immense homme, hein, il aurait pu m'écraser. Et puis, évidemment, mon petit cœur, hein, j'ai donné mon petit cœur, mais mon petit cœur, il battait comme ça devant cet homme. Puis j'ai dit, alors, il paraît que vous m'avez fait arrêter. Pour quelle raison? J'avais avec moi des documents où les papes disaient, trois papes disaient qu'il fallait distribuer la Bible au peuple. Alors j'ai dit, mais vous m'empêchez de distribuer la Bible. Qu'est-ce que j'ai distribué? C'est la Bible. Et même, c'est une Bible crampon qu'elle imprimature. Alors, il était un peu gêné, et puis, enfin, notre entretien a duré 2 heures. Pour finir, il s'est calmé, mais il m'a dit, oh, la police, vous savez, il raconte n'importe quoi. Il a biaisé, lui aussi. Mais quand même, j'ai fait du face-à-face. Mais je vous promets que j'ai dû toujours demander au Seigneur, donne-moi de ne pas avoir peur des robes noires, parce que ce temps-là, on mettait les robes, hein. Ils avaient des grandes robes. Et ça m'impressionnait, ça. Alors, il a fallu vaincre la peur. Ça, c'est les premiers combat que j'ai eu dans ces cantons entièrement catholiques où j'étais seul, mais le samedi soir je rentrais dans une ville où il y avait une assemblée et je pouvais participer à la table du Seigneur qui a été pour moi la bénédiction de ma vie, de pouvoir célébrer la scène avec mes frères dimanche après dimanche. Alors, donc, vous voyez tout cela, quand on lit les actes, on voit que ces apôtres, ces disciples, ils suivaient ce que le Seigneur leur avait montré. Donc, ils ont un succès dans leur mission dans cette ville. Et puis, il est dit au verset 2, donc plusieurs Juifs et Grecs ont cru, mais ceux des Juifs qui ne crurent point, parce qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas croire. C'est ce que Jésus avait annoncé dans la parabole des
Laquelle? Du, pas dire du semeur, n'est-ce pas? Sur quatre terrains, il n'y en a qu'un qui produit du fruit. Donc, il ne faut pas nous décourager. Le Seigneur nous a dit qu'on n'aurait pas toujours du succès. Alors, il y en a qui ne reçoivent pas la parole et ils excitèrent et aigrirent les esprits des païens. Vous voyez, c'est des gens religieux, des juifs, qui ne veulent pas que l'évangile soit annoncé à cause de leur religion, et ils suscitent, même chez les païens, donc une animosité contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps. Vous voyez, ils ne sont pas partis de suite. Eux, là, ils ont été conduits à rester un peu plus longtemps, quitte à avoir de grands risques. Ils sont restés à Iconium. Alors, vous voyez où est cette ville, hein? Ici, hein, là-haut, à Iconium. Ils sont restés assez longtemps, parlant avec doute. Qu'est-ce qui les caractérisait? Qu'est-ce qui doit nous caractériser quand nous prêchons? L'homme doit être humble, mais sa parole doit être dite avec assurance. Hein? Ils ont parlé avec assurance. Ils savaient de quoi ils parlaient. Hein? C'était pas des peut-être, c'était des certitudes qu'ils apportaient. Ils parlaient avec assurance, puis ils étaient appuyés sur quoi? Sur les autorités d'abord? Non, ils étaient appuyés sur le Seigneur. Qui est, sur quoi est-ce que nous nous appuyons? Sur le Seigneur. Vous voyez ce qu'on a pu dire à notre sœur Madame Bouliane, à 82 ans, le Seigneur dit, je t'ai porté des ton origine, hein? Je suis le même, je veux encore le faire, te porter, te soutenir. Alors on s'appuie jusqu'à la fin de notre course, on s'appuie sur quoi? Non pas sur la chair, mais on s'appuie sur le Seigneur. Donc le Seigneur est avec nous tous les jours. Et le Seigneur, sur lequel il s'appuyait, il est dit que lui rendait témoignage à la parole de sa grâce. C'est merveilleux. C'est le Seigneur lui-même, quand on s'appuie sur lui, qui permet que sa parole ait une autorité et qu'il se fit même par les mains des apôtres des prodiges et des miracles. C'est ce que nous pouvons aussi lui demander, que tu nous qualifies et que tu accrédites ta parole par les signes que tu voudras, parce que nous croyons que la puissance du Seigneur est toujours la même. Mais que nous sommes dans une période où notre foi est en déclin, comme le Seigneur l'avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et voyez-vous, on a maintenant presque, les chrétiens ont pris des assurances tout risque, si j'ose dire ainsi. Hein. Et alors on n'a plus l'assurance sur le Seigneur, on a toutes les assurances possibles. Hein. Il nous arrive quelque chose, il y a cette assurance. Il nous arrive autre chose, il y a une autre assurance. Alors, quand on a une assurance tout risque, on ne dépend plus tellement du Seigneur. Mais de ce temps-là, ils avaient que le Seigneur. Alors le Seigneur les soutenait. Le Seigneur les délivrait. Le Seigneur était engagé avec eux. Et je crois que si nous retrouvions davantage cette dépendance totale de lui, au lieu de compter toujours sur l'État qui nous domine, qui nous possède, il a l'air de nous donner quelque chose, mais c'est pour mieux nous prendre. Hein. C'est pour mieux nous posséder, pour mieux nous diriger. Eh bien, c'est pourquoi c'est dans les temps de persécution qu'on voit de nouveau des miracles se faire, parce que les gens ne peuvent plus compter que sur le Seigneur. Voilà ce que nous voyons. Le Seigneur, parce qu'on s'appuyait sur lui, eh bien, il se manifestait. Verset 4. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. C'est toujours ce qui arrive, n'est-ce pas? Le Seigneur l'avait dit. Il est venu apporter l'épée sur la terre, ça provoque des divisions. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, quand on prêche l'évangile, il faut savoir qu'il y a des risques. Hein? Il y a des risques. Et on est dans des corps, et nos corps, on peut les saisir, hein? Paul et Barnabas en ayant eu connaissance que quelquefois, et vous se réfugiez, bien, ils se sont réfugiés dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans les contrées d'alentour. Mais ils ne se sont pas arrêtés en disant, ben maintenant on ne prêche plus la parole. Vous voyez, ils étaient à Iconium, alors ils sont allés à Lystre et à Derbe, hein, et puis dans cette contrée-là. Et nous verrons qu'ils sont revenus de Derbe à Lystre et à Iconium, ils sont revenus à Antioche de Pisidie, et puis on verra, ils sont venus à Perge, et pour rentrer, ils ont pris le bateau à Attalie, comme nous le verrons dans ce chapitre, puis comme ils étaient venus comme ceci, ils sont venus par là pour retourner à Antioche, d'où ils étaient partis. Alors là, vous voyez le voyage d'aller et le retour par là, et à Attalie, ils prennent le bateau et ils vont là à Antioche, d'où ils étaient partis, comme nous allons le lire. Mais vous voyez au verset 7, ils y annoncèrent, donc dans toutes ces villes où ils sont passés, et ils ne se sont pas arrêtés, ils ont annoncé la bonne nouvelle. À Lystre, alors c'est cette ville-là, et c'est très important de voir Lystre là. Qui est-ce qui se trouvait à Lystre? Il y avait un petit jeune homme, qui était un enfant d'abord, qui allait avec sa maman pour écouter les bonnes... Hein? Timothée, oui, Timothée. Et alors, vous pouvez vous imaginer que Timothée a pu voir tout ce qui s'était passé à Lystre quand il était encore tout jeune et qu'il suivait sa mère. Puis on connaît même le nom de sa grand-mère. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Loïs, n'est-ce pas? Et sa mère, comment est-ce qu'elle s'appelait? Eunice. Et c'est beau de savoir ces noms-là. Hein? Les grands-mamans, eh bien, elles sont connues du Seigneur. Eh oui. À Lystre, quand Paul est arrivé, alors c'était une ville tout à fait païenne, se tenait à un homme impostant des pieds. C'est très frappant. Ça vous rappelle pas un peu le chapitre 3, où on voit Pierre qui s'en va au temple, puis qui trouve un homme impostant. Eh bien voilà, c'est Paul maintenant, qui est en pays païen, il n'y a pas de synagogue, il n'est pas dans le temple, mais il est, comme on le verra un peu plus loin, il est probablement à la porte de la ville. Cet homme est boiteux de naissance. Tout à l'heure, on a parlé d'un aveugle de naissance. Donc un homme qui n'avait jamais vu, parce que quand on a vu, on a des souvenirs. Et quand on est même dans les ténèbres, quand on est devenu aveugle, on a les souvenirs et des couleurs et des visages qu'on a connus, quand on a les images intérieures. Tandis qu'un aveugle de naissance, il n'a jamais vu. Il ne peut pas savoir ce que sont les couleurs. C'est quelque chose. Eh bien là, cet homme, il n'avait jamais marché. Donc c'était un cas absolument incurable. Hein. Il n'avait jamais marché. Et il était assis. Alors qu'on pense que ceux qui écoutaient Paul, ils étaient debout comme vous, vous étiez debout au Becquerol tout à l'heure, hein, pour entendre nos bien-aimés. Il écoutait parler Paul. Vous voyez ce qu'il faut d'abord, il faut écouter. Cet homme tout impotent qui n'avait jamais parlé, il écoutait Paul. Comme certainement l'aveugle de naissance a écouté la conversation de Jésus et de ses disciples. Il écoutait parler Paul. Et alors Paul, évidemment, voyant quelqu'un assis alors que tout le monde est debout, et il a vu que c'était un impotent, Paul fixa les regards sur lui. Il y a des analogies, n'est-ce pas, avec la rencontre de Pierre, et qui regarde aussi celui qui lui demande l'aumône. Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous voyez qu'il y a un discernement spirituel chez Paul. Il voit que cette manière d'écouter chez cet homme qui n'a jamais marché, eh bien, lui a dit quelque chose. Et qu'il a réalisé que cet homme avait un besoin et qu'il avait la foi pour être guéri. Que s'il lui disait une parole, il pouvait compter que cette parole serait reçue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Paul dit d'une voix forte.
Vous vous souvenez de Jésus qui crie d'une voix forte?
Où? Au tombeau de Lazare. Lazare, sort dehors. Et le mort, sorti. Hein? Eh bien, là, il crie d'une voix forte. Lève-toi, droit sur tes pieds. Mais il n'a jamais marché. Ça ne vaut pas même la peine. Mais vous voyez que les paroles du Seigneur sont esprit et sont vie, et même quand elles sont dans notre bouche, elles deviennent esprit et vie, parce que ce ne sont pas nos paroles, c'est pas Paul qui a parlé, c'est qui? C'est le Seigneur. Et alors, vous voyez, il y a une assurance dans la prédication, et il y a aussi une assurance, il n'a pas essayé de guérir quelqu'un, hein. Mais il lui a donné cet ordre, lève-toi sur tes pieds. Va le dire ailleurs, j'ai jamais marché. Hein? Bien non. Qu'est-ce qu'il a fait le type qui était assis? Il a fait un saut. Hein? Et il se leva d'un bond. C'est une énergie, hein, ça. D'un bond, et il marcha. Là, on ne l'a pas tenu par la main. Hein. Et il marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, parce qu'évidemment, la foule attribue cela à Paul, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » C'est quelque chose. Voilà, il pense que les dieux sont descendus de l'Olympe, les dieux sont descendus vers nous. Il y a eu comme une incarnation. C'était donc des païens. Et alors, ils ont appelé Barnabas Jupiter. Jupiter, c'était le Zeus, hein? C'était le chef de tous les dieux, le plus haut des dieux, Jupiter. Pourquoi est-ce qu'on appelait Barnabas plutôt Jupiter? Et Paul, on l'appelait Mercure, l'Hermès d'autres contrées, hein? Pourquoi? Parce que Paul, c'était lui qui portait la parole. Alors, Barnabas était plus âgé que Paul. Alors, c'est Jupiter pour eux, pour les païens. C'est le plus âgé. Paul était plus jeune. Et puis, il était beaucoup plus impressionnant, Barnabas. Tandis que Paul, il dit que sa présence personnelle était méprisable. Ses lettres sont grandes, mes lettres sont grave et forte, mais ma présence est méprisable. Alors, voilà, les païens appelaient donc Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, alors lui aussi, il est bouleversé de voir tout cela, et il y avait le temple qui était à l'entrée de la ville, il amena des taureaux avec des banderoles vers les portes, donc ils étaient là aux portes de la ville, et ils voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. À qui? Qu'ils prenaient pour des dieux. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont dit, oh, c'est formidable, vous voyez comment on nous honore, c'est magnifique. C'est ce qu'avait fait Hérode. Mais ils ne veulent pas mourir rangés de vers. Et alors, ils refusent ces honneurs qu'on veut leur donner parce qu'ils ne sont pas des dieux. Ne nous prenez pas pour des dieux, nous ne sommes que des hommes et des hommes pécheurs. Et leur humilité, quand ils voient ça, les pousse. Non pas à dire, oh, comme on est bien reçu, on nous prend pour des dieux, on nous prend pour des anges, non. Les apôtres, verset 14, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes et de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. C'est tout le paganisme, hein? C'est toutes ces idoles. Parce que tous ces dieux, les païens, ne sont pas des dieux vivants. Ce sont des idoles. Elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Elles ont des oreilles qui n'entendent pas. Elles ont des mains qui ne touchent pas. Elles ont un nez qui ne respire pas. Elles ont des pieds qui ne marchent pas. On doit les porter. Vous voyez, c'est Dieu qu'on porte. Alors que nous avons vu que c'est Dieu qui nous porte. Et alors, vous voyez la fidélité des apôtres. Ils disent en peu de mots tout le message. Notre Dieu dont nous vous parlons, c'est un Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Alors il leur présente le Créateur. Le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. La nature parle d'un Créateur. Hein. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, à l'exception d'Israël. Hein. Il a laissé les nations suivre leur propre voie d'après la conscience, parce que tous avaient une conscience, et la nature était le grand livre qui devait les enseigner. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Que c'est beau, cette manière de parler, n'est-ce pas? Il s'adapte immédiatement à cet auditoire et il sait partir de choses qu'ils connaissent pour les enseigner dans la vérité. Il n'a pas la bouche fermée, il sait comment les atteindre. C'est là ce que Paul nous dit, il savait se faire tout à tous. Aux païens comme s'il était païen, aux juifs comme s'il était juif, parce qu'il voulait les atteindre et qu'il les aimait. Et il leur montre que tout le bien qu'ils ont reçu, même s'ils ne le savaient pas, c'était de Dieu, de ce Dieu qu'il leur prêche, qu'il leur présente. C'est lui qui donne la joie même aux païens. Est-ce que nous reconnaissons cela? Les païens, la joie des païens, c'est Dieu qui la leur donne. La nourriture des païens, c'est Dieu qui la leur donne. Il nourrit les oiseaux du ciel, il revêt les lys des champs, et puis tous les hommes, toutes ces créatures, sont au bénéfice de sa grâce et de son ami. Alors voilà ce qui s'était passé dans cette fameuse ville de Lystre. Et je pense bien que Timothée, tout enfant, avait dû voir cet homme sauter d'un bond sur ses pieds à la parole de Paul. Et puis, il y a eu la suite. Alors, après qu'on les a pris pour des dieux et qu'on voulut montrer qu'ils n'étaient que des hommes, alors survinrent d'Antioche, donc de cette ville d'où ils avaient été chassés, vous voyez que ils sont partis là d'Antioche, et puis ils sont allés à Iconium et à Lystre. Pour attaquer l'apôtre, ils ont fait tout un voyage. Et d'Icône, donc ils étaient partis de là, ils ont fait une marche. Vous savez qu'aujourd'hui on fait faire des marches, hein, tout le temps des marches. Alors, d'Antioche, ils sont allés à Iconium et puis ils arrivent à Lystre, où se trouve Paul, là, qui a été acclamé avec Barnabas comme s'ils étaient des dieux. Ils arrivent d'Antioche et d'Icône, des juifs qui gagnèrent la foule, cette foule qui les a honorés, qui voulait les honorer comme des dieux. Comme le jour où Jésus est entré à Jérusalem sur l'anneau, on criait quoi? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quelques jours après, qu'est-ce qu'on disait? Hôte, hôte, crucifie-le. Voilà les mouvements des foules. Et il faut faire très attention, nous n'exploitons pas les mouvements des foules. Parce que les foules, ils font de vous une idole, puis au bout de peu de temps, ils brisent l'idole. Je me souviens quand j'étais en Italie, là où j'ai reçu ma vocation en 1936, j'entendais les gens qui criaient « Viva il Duce, viva il Duce hein. !» Bon, c'était qui? Mussolini. Et un jour, il était pendu par les pieds à Milan avec la Petacci, sa maîtresse, et on leur crachait au visage. On les avait fusillés et ils étaient pendus par les pieds. C'est quelque chose. Hein. Voilà, on a mis en l'air au sommet ces gens-là, et puis après, la même foule les piétine. Voilà la gloire des hommes. Oh, que c'est différent. La gloire du Seigneur. Alors, ces gens arrivent dans une violence extrême, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Paul, et sans jugement, ils l'ont lapidé. Ce Paul qui avait vu lapider qui? Étienne, est maintenant à la place d'Étienne, et on est en train de le lapider. Paul fut lapidé. Ils le traînèrent hors de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Hein? Alors, je pense toujours à Timothée qui avait dû voir cela. Puis, les disciples, l'ayant entouré, comme on a vu que des disciples étaient venus pour relever, quoi, le cadavre d'Étienne, c'était son corps. Alors, voilà des disciples qui ont reçu du bien de l'apôtre Paul, qui voient ce, qui savent maintenant qu'il est lapidé, et ils viennent entourer ce corps, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Notre Paul qui se lève. Notre Paul qui se lève. Puis il ne dit pas, faites-moi des pansements. Il ne dit pas, j'ai mal. Tiens, il se lève. Puis il entra dans la ville. Lui qui a fait marcher l'impostant qui n'avait jamais marché. Ce n'est pas une lapidation qui va l'arrêter, parce qu'il est dans le Seigneur. Le lendemain, il partit pour Derbe. Vous voyez, il n'a pas dit, ben maintenant je peux prendre un congé. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Alors, donc il est allé plus loin encore. Hein, de Lystre, il est allé à Derbe. Il va là, au bout, avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés où? À Lystre. Vous voyez? Ils sont retournés à Lystre. Car sans cela qu'il avait été lapidé, on aurait pu l'éviter. Non, il va à Lystre, où est ce jeune Timothée. Il monte à Iconium, et puis vous avez vos Bibles? Fortifiant quoi? L'esprit des disciples. Vous voyez, il retrouve les disciples et il fortifie leur esprit. Et qu'est-ce qu'il leur dit comme message? Il les exhorte à persévérer dans la foi. Dans la foi, il faut persévérer dans la foi au Seigneur et à sa parole, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit, vous savez, vous n'aurez plus d'épreuves maintenant, hein, mais il les avertit qu'il y en aura encore. Et quand on est averti, on est prêt à tout supporter. C'est un message vraiment de vérité. Verset 23. Ils firent nommer des anciens. Alors vous savez ce que sont les anciens, vous en avez les caractères dans le chapitre 3 de la première épître à Timothée. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, puisque eux devaient partir, ils nomment des responsables. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc c'était des gens qui avaient vraiment cru. Et traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Donc là, ils vont à Antioche, et puis ensuite, c'est là. La Pamphylie, c'est toute cette région-là. Et ils annoncèrent la parole à Serge. C'est ici, Serge, hein, là. Et ils descendirent à Attalie, qui est le port sur la Méditerranée. Et de là, il est dit, ils s'embarquaient, alors c'est ça qu'ils ont fait, ils s'embarquaient pour Antioche. Quelle Antioche? L'Antioche, d'où ils étaient partis, qui est en Syrie, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour eux qu'ils venaient l'accomplir. La boucle était fermée maintenant, ils avaient fait leur premier voyage. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, là où on avait appelé les disciples pour la première fois des chrétiens, et qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait pour Dieu. Tout ce que Dieu avait fait avec eux. Vous voyez que c'est très important de bien lire les Écritures. Ce n'est pas tout ce qu'ils avaient fait, eux, pour Dieu, mais c'est tout ce que Dieu avait fait avec eux, parce qu'ils s'étaient laissés faire. Comme je dis si souvent, j'essaye d'enseigner ça, le service chrétien, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour Dieu, c'est ce que Dieu peut faire avec vous. C'est tout différent. Et c'est pourquoi on est soutenu, c'est pour ça qu'on est renouvelé. Bien sûr, il y a des moments de fatigue, mais il y a le renouvellement divin qui est donné par la grâce. Et on peut simplement témoigner que Dieu est fidèle. Et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils n'ont pas dit, c'est nous qui avons ouvert la porte. Non, c'est Dieu qui a ouvert la porte. Et alors, ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Eh bien, voilà le premier voyage de Paul. Maintenant, nous avons fait donc non seulement la moitié de ce livre, mais nous avons pu envisager comment Paul a continué son ministère. Cela nous prépare pour demain. Maintenant, mes amis, c'est votre tour.